Bon. Bonjour. On continue notre étude dans 2 Corinthiens. On est rendu au chapitre 10 et on va voir les six premiers versets. 2 Corinthiens 10, 1 à 6. Et j'ai intitulé le message « Vaincre les faux raisonnements ». Avez-vous des faux raisonnements parfois? Des idées qui ne sont pas nécessairement alignées avec ce que la parole de Dieu dit. Des fois, on le sait qu'ils sont faux. Des fois, on se pose des questions, on se demande. Mais ce matin, c'est ce qu'on va voir, vaincre les faux raisonnements. Et on va lire tout de suite les six versets. Donc, 2 Corinthiens 10, à partir du verset 1. « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Je prie encore, Seigneur, on veut prendre ces quelques minutes avec ces six versets, puis je prie, Père, que tu nous parles à chacun, qu'on puisse sortir tantôt avec un élément, quelque chose que tu nous auras dit ou tu nous auras convaincu, Seigneur, d'une vérité peut-être qu'on croit, qu'on connaît, mais des fois on ne met pas toujours en pratique les choses qu'on sait être les choses vraies de ta parole. Donc parle-nous, puis amène-nous aussi à marcher d'une manière digne, à obéir, pas seulement être des auditeurs, mais de mettre en pratique ta parole. Puis je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, on est rendu dans cette nouvelle section, parce que Paul a terminé son exhortation, hein, vous vous rappelez, il a exhorté les croyants à Corinthe d'achever la collecte pour les chrétiens qui étaient à Jérusalem. Et là, il débute cette nouvelle section, chapitre 10 à 13. Et là, il va plus défendre son apostolat. Il va s'attaquer, il commence là à s'attaquer un peu aux faux enseignants, parce qu'on a appris qu'il y a des faux enseignants qui étaient venus à Corinthe, puis qui disent des choses contre Paul, puis il y a même des chrétiens de Corinthe qui avaient cru à ça, puis Paul, il veut les gagner, il veut les ramener, de ne pas croire ces raisonnements-là, ces mensonges qu'ils ont entendus. Si je résume les six versets qu'on a lus, c'est comme si Paul dit « revenez à l'obéissance de Jésus-Christ ». Hein, revenez à l'obéissance de ce que Dieu vous a révélé. L'ennemi vous attaque à travers ces faux enseignants-là. Hein, puis ces faux enseignants-là veulent contrôler vos pensées. Ils veulent avoir la main sur vous. Et l'ennemi, ben, il veut s'infiltrer parmi l'Église. Il veut infiltrer nos raisonnements, nos pensées. Puis il le fait, malheureusement. L'ennemi s'annonce pas d'avance avant de nous visiter. Il est subtil. La parole nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Alors qu'un ange de lumière, ça a l'air bien beau, bien brillant, bien intéressant, mais c'est l'ennemi qui est déguisé dans ça. Donc, il va utiliser toutes sortes de choses pour s'infiltrer dans nos pensées, puis il veut gagner la bataille. L'ennemi veut gagner la bataille. Vous réalisez qu'on est tous dans une bataille? Si vous êtes un enfant de Dieu, et puis vous avez le Saint-Esprit, et puis vous marchez, vous voulez, bien, vous êtes tous Vous avez tous levé la main en disant, oui, je le sais, je le vois, on est dans une bataille. Mais l'ennemi veut la gagner, puis il veut s'infiltrer. Il va utiliser toutes sortes de choses pour gagner cette bataille-là. Et là, il utilise ici des faux enseignants qui viennent enseigner des choses qui sont contraires aux Saintes Écritures. Bon, peut-être que dans nos églises, si jamais vous invitez un enseignant, puis clairement, il y a des faux enseignements, ça se peut que vous allez le voir après, vous ne le réinvitez plus. Donc, il y en a des faux enseignants dans les églises, mais on essaie de surveiller ça de près. J'imagine que vous faites la même chose ici. Mais à Corinthe, ben, c'est ça qui est arrivé. Des faux enseignants qui se sont infiltrés tranquillement, parce que c'est des chrétiens qui n'étaient peut-être pas fondés encore très solidement. C'est pas des chrétiens qui sont des croyants depuis, je sais pas, ça fait combien d'années vous êtes des croyants? 30 ans, 40 ans, c'est que vous lisez l'Écriture, ben peut-être qu'eux, ben pas peut-être, mais eux, ils n'avaient pas ce fondement-là aussi solide, puis ils ont laissé des faux enseignants. Peut-être qu'on ne laisse pas nécessairement rentrer des faux enseignants dans nos assemblées, mais l'ennemi utilise toutes sortes de choses pareilles pour vous s'infiltrer. Il utilise la télé. Bon, la télé, on a de moins en moins, mais l'Internet, c'est la télé moderne, c'est l'Internet. Donc, il utilise tout ce qui passe dans les émissions. Puis moi, je suis fasciné de voir dans les émissions de Netflix, de Crave, de Paramount, de on peut s'abonner à toutes sortes de, comment on appelle ça, des réseaux là, pour écouter la télé. Puis ça me fascine de voir que dans toutes les séries, il y a des faux raisonnements. Mais là, on les reconnaît quand même parce qu'on est des croyants, fait qu'on reconnaît quand, oh ça, non, c'est pas chrétien. Je veux dire, Netflix, c'est pas chrétien, puis la majorité ne le sont pas. Il y en a quelques-uns qui ont des choses chrétiennes. Mais dans les émissions de télé, les films, il y a tellement de faux raisonnements qui sont là. Puis il faut watcher, il faut veiller parce qu'à un moment donné, on s'endort avec ça. Et tranquillement, on a peut-être des faux raisonnements. Ça peut être la littérature aussi, qu'est-ce qu'on lit. Ça peut être les médias qui rendent des fausses idées. Il y a beaucoup d'influenceurs aussi. Les influenceurs, c'est des gens là sur YouTube, c'est les réseaux sociaux. Puis là, les gens, ils vont les aimer, ils vont les suivre, puis ils vont écouter ce qu'ils disent. Puis peut-être 90% de ce qu'ils disent, c'est bien, puis ça fait du sens. Mais il y a toujours ce petit 10% ou ce petit 5% qu'il faut faire attention. Ça peut être des professeurs à l'école. Je parlais à un jeune étudiant hier encore, puis philosophie, chaque cours de philosophie, il ramène le christianisme. Ben, un aspect du christianisme, puis c'est toujours dans le but de discréditer. Hein. Donc, ça peut être des scientifiques, ça peut être des philosophes, mais peu importe, l'idée, c'est que on est dans ce monde, puis l'ennemi essaie de s'infiltrer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, et nous amener à avoir des faux raisonnements, et nous amener tranquillement à dévier de l'Écriture. Donc, la vérité de la Bible est attaquée aujourd'hui, la vérité de la parole. Il y a vraiment une bataille qui se livre sur la place publique même, dans les écoles, mais dans nos cœurs aussi, dans nos pensées. Il y a un combat qui est là. Alors, d'un côté, la vérité de l'Évangile, on la prêche, que ce soit à la télé avec l'Heure de la Bonne Nouvelle ou d'autres émissions, on la prêche à partir de la chair dans nos assemblées, et on veut prêcher la vérité, mais de l'autre côté, il ne faut jamais oublier que Satan est là, l'ennemi est là, notre chair est là, puis l'ennemi sème, il va semer des faux raisonnements, parce qu'il veut nous éloigner tranquillement. Puis ça ne se fait jamais tout d'un coup, c'est toujours graduel, alors il faut veiller. Alors, je vous pose la question, qui aura la victoire sur nos pensées? Bien, le texte de ce matin nous propose quatre manières de vaincre ces faux raisonnements. Et le premier, j'ai écrit « Par la douceur et la bonté de Christ ». Bon, parce que Paul, il veut vaincre un faux raisonnement chez d'autres croyants, voyez-vous. Il voit les Corinthiens qui pensent des choses à propos de lui, puis il veut vaincre ces faux raisonnements-là chez d'autres. Il veut corriger ce que les autres croient. Puis ce que les autres croient, ça le dit, ils disent que Paul marche selon la chair. Alors, Paul, il veut corriger ça, mais il le fait en utilisant la douceur et la bonté. Parce que ça va arriver dans notre vie, dans nos églises, qu'on va vouloir corriger peut-être des faux raisonnements que d'autres ont. Puis qu'on est convaincu que selon les Écritures, tel frère ou telle sœur, elle a vraiment un faux raisonnement, puis j'aimerais ça lui parler, puis lui dire. Mais comment? Bien, par la douceur et la bonté. Puis je trouve ça beau comment il commence cette nouvelle section. Il commence chapitre 10 à 13 en s'attaquant à ses enseignants, ses faux enseignants, mais il le fait avec douceur et la bonté de Christ. C'est avec cette attitude-là qu'il veut défendre son apostolat, qu'il veut s'attaquer aux faux enseignants. Et il aurait pu utiliser son autorité apostolique. Il aurait pu, Paul. Je veux dire, l'autorité lui avait été donnée de Dieu. Il aurait pu exiger de la part des Corinthiens, mais non. Il dit, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Et ça nous démontre qu'il veut gagner le cœur de ceux qui sont peut-être encore sous l'influence de ces faux enseignants-là. Il veut les gagner. Il le fait avec la douceur et la bonté de Christ. Et ensuite, je pense qu'il cite les faux enseignants. Il y a comme une petite parenthèse, là. Il dit, « Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » Je pense qu'il cite ici ce que les faux enseignants pensaient de lui. Puis regardez. Ben en fait, c'est comme s'il disait, « Ah, Paul, on le sait, Paul, quand il est là, il est doux comme un agneau. Mais quand il est loin, là, il fait son dur avec ses lettres. » Puis regardez le verset 10, qu'on ne regarde pas aujourd'hui. « Car, dit-on, » donc c'est les faux enseignants, j'imagine, qui disaient ça, « ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. » Donc, voyez-vous comment les faux enseignants considèrent Paul. Donc, je pense qu'ils citent au début des versets ces faux enseignants. Et je trouve ça vraiment pathétique que ces gens-là, ces faux frères, utilisent des qualités de l'apôtre Paul pour l'attaquer. Ils utilisent la douceur et l'humilité de Paul pour leur virer contre lui. On sait bien, lui, tu sais, il est comme ça. Hein? Il est dur avec ses lèvres, mais quand il est présent, il est faible. Ben, il était doux, il était humble, mais il l'attaque avec ses qualités-là. Donc, même vos qualités, quelqu'un peut les utiliser puis les revirer contre vous. Je trouve ça quand même intéressant de voir ça. Même les qualités ou les bons coups d'un ouvrier ou de n'importe qui dans l'assemblée peuvent être retournés contre la personne. Mais remarquez que Paul fait exactement le contraire que ce qu'on lui reproche. Parce qu'on dit qu'il est sévère dans ses lettres puis qu'il est faible en personne. Mais là, c'est le contraire parce qu'il utilise la douceur dans sa lettre. Puis il propose d'user de hardiesse quand il va être en personne. Fait qu'il fait exactement le contraire de ce que les gens lui reprochent, les faux enseignants. Et l'hardiesse, c'est d'oser affronter sans se laisser intimider. Donc, je vais user de hardiesse. Je vous prie de pas, parce que sinon je vais être obligé d'user de hardiesse quand je vais être là. Et il y a un temps, en passant, pour la hardiesse, il y a un temps hein, pour dire les... L'hardiesse, j'ai l'impression, c'est comme dire, c'est mettre les barres c'était puis les points saisis. À un moment donné, il faut comme dire les choses. Puis il y a un temps pour ça. Il y a un temps, mais il y a un temps pour reprendre. Mais Paul commence ici avec cette douceur puis la bonté de Christ. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit imiter. Si on veut entre frères et sœurs, parce qu'on est appelés à se reprendre les uns les autres, à se confesser nos péchés. Si quelqu'un voit un frère tomber, toi, celui qui est plus spirituel, vas-y, redresse-le avec un esprit de douceur. Donc, Pierre aussi va dire la même chose. Donc, on est appelé à ça, mais si on veut le faire, il faut vraiment copier, imiter l'apôtre Paul, Pierre qui nous le dit aussi, avec l'amour, avec la douceur. Parce que si je le fais avec la force, si je le fais avec la fermeté, bien, je risque de créer l'effet contraire. Puis je l'ai tellement vu souvent. Si tu n'avais pas été de même, peut-être que la personne serait, n'aurait pas été blessée comme ça. Peut-être qu'elle ne serait pas partie comme ça. Donc, on fait des erreurs, mais on s'en repent. Hein? On est tous, on va en faire toute notre vie. On fait des erreurs, on revient au Seigneur, on se repent, mais on demande, Seigneur, aide-moi d'avoir l'approche qui convient. Donc, la douceur, la bonté de Christ. La deuxième, comment vaincre l'ennemi, les faux raisonnements? Bien, avec les armes spirituelles. Verset, je vais relire 3-4. Si nous marchons dans la chair, donc il y a deux mots importants ici, il y a le mot dans et selon. C'est deux mots importants à comprendre la différence. Hein. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, ces gens-là, ces faux enseignants, accusaient Paul de marcher selon la chair, dans le sens moral. Tu sais, quand tu marches selon la chair, c'est l'idée que tu obéis à tes désirs charnels, donc le péché. Donc, les faux enseignants disent, Paul marche selon la chair, dans le sens moral. Et Paul les reprend au verset 23 en affirmant, ben oui, nous marchons dans la chair. On marche dans la chair, mais on ne combat pas selon la chair. Puis voyez la différence? Deux mots importants. Marcher dans la chair, ce qu'il est en train de dire, c'est ben oui, je veux dire, on vit prisonnier de notre corps mortel. On est tous dans la chair. On a tous donné notre vie au Seigneur. On est né de nouveau, mais qui a son corps renouvelé ce matin? On est encore dans la chair. Alors, Paul, c'est ça qu'il dit. Ben oui, on marche dans la chair, mais on ne vit pas selon la chair. Donc, marcher dans la chair, c'est qu'on est dans notre corps mortel, pas régénéré, mais marcher selon la chair, ça veut dire d'obéir à nos désirs charnels, déchus. Et à Paul affirme qu'il combat non selon la chair, mais avec les armes spirituelles. Donc, son combat, ce n'est pas selon ses égarements, sa chair, pécheresse, non. Il combat selon la chair, mais il parle selon la chair, mais avec les armes spirituelles. Il utilise les armes spirituelles qui sont mises à notre disposition. Donc, il y a une importance quand Paul dit ça. Oui, on marche dans la chair, parce qu'on est dans notre corps, mais on ne combat pas selon la chair. On combat selon les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Donc, c'est ça le point que Paul fait. Prisonnier d'un corps, on est encore sous la malédiction du péché, mais devenu enfant de Dieu, notre vieil homme est mort, on est une nouvelle créature, mais toujours prisonnier. Puis je vous invite, tournez dans Romains 7, vous connaissez ce texte-là, mais on va le lire, parce que je pense que ça illustre vraiment ce que Paul est en train de dire ici. On va lire Romains 7, quelques versets ensemble. Donc, notre nouvelle naissance, hein, on a le Saint-Esprit qui nous habite. On peut maintenant vivre selon l'Esprit, on peut combattre avec les armes de Dieu, malgré qu'on est prisonnier. Donc, regardez le verset 14, Romains 7, 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » Donc, on voit le combat, hein? Puis on l'a tous vécu, ce combat-là, puis on le vit tous. Verset 16. « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, donc la nouvelle créature, nouvelle naissance. Mais je vois dans mes membres, dans ma chair, dans mon corps pour régénérer, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, Qui me délivrera de ce corps de mort? Et là, c'est la belle réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, voyez-vous, on est encore, c'est pas des versets qui sont faciles, mais on voit qu'on est encore lié d'une certaine manière à la chair et au désir de la chair. Il y a un lien quelque part à cause de ce corps qui n'est pas encore transformé. Et on a ce combat. Puis on veut faire le bien parce qu'on a des nouvelles créatures. Mais il y a encore cette chair-là qui tire de son ventre. Donc, il y a deux lois en nous, la loi du péché, puis il y a la loi de Dieu. Puis il y en a une seule qui peut remporter la bataille. Si je nourris ma chair de toutes sortes d'idées du monde puis de ce que les gens ont à nous offrir, ben je vais de plus en plus marcher selon la chair. Si je nourris plus l'esprit, l'être qui a été renouvelé, la nouvelle naissance qui s'est produite en nous par le Saint-Esprit, si on nourrit plus l'esprit, bien, on va marcher plus selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. On nourrit notre esprit par la méditation, par les Écritures, par la prière, et on doit apprendre à maîtriser ces armes-là. Ce sont des armes que Dieu nous a données. On doit en être imprégné constamment. Puis moi, je reviens toujours à ça, puis je pense que des fois, les gens sont tannés un peu. Mais je reviens toujours à la base de la parole, de méditer, puis de prier, passer du temps avec Dieu. Quand un chrétien a de la difficulté, puis lutte, peu importe, bien, je serais curieux de puis je dis pas que si on fait juste prier, on pêchera jamais, mais je serais curieux de savoir dans ta semaine, c'est quoi les temps que tu consacres au Seigneur? C'est quel temps que tu consacres à la parole, à la prière, puis quel temps que tu consacres au divertissement, puis quel temps que tu consacres à Netflix, par exemple, ou à d'autres streaming? Quel temps que tu consacres à qui, puis à quoi? Bien, ça va donner une bonne indice de comment va être ta lutte durant la semaine. Puis je ne dis pas que celui qui prie plus puis qui est dans sa parole, il ne pêchera pas, mais je pense qu'il va vivre probablement plus de victoire quelque part que si je fais juste me nourrir des choses du monde. Donc, c'est des armes qu'on doit avoir dans nos vies à chaque jour, pas juste les sortir quand on a besoin. Puis c'est peut-être ça, des fois, le problème. Je me rappelle d'un frère qui avait il travaillait je me souviens pas sur sa maison, mais il avait perdu un objet, un outil qu'il avait loué, mais qui valait très, très, très cher. Il avait échappé, je pense, dans un endroit où est-ce qu'il y avait de la misère. Il pouvait pas aller le rechercher, mais puis je me rappellerai toujours parce qu'il m'a dit, ah, il dit, j'ai jamais prié autant que ça. Parce qu'il dit, Seigneur, il faut que tu m'aides à retrouver, à récupérer l'outil. Je veux dire, sinon, il faut falloir que je le rembourse, puis je le paye, puis je n'ai pas les moyens de faire ça. Mais j'avais trouvé ça intéressant qu'il n'ait jamais prié autant que ça, parce que là, il avait besoin que Dieu. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Ben, c'est correct de doubler, redoubler d'ardeur parce qu'il y a quelque chose d'important, mais selon ce que je comprenais, c'est que sa vie de prière était plus ou moins vivante. Puis là, tout d'un coup, elle a pris vie parce qu'il y avait un besoin. Mais il faut que ces armes-là soient pas des... On les sorte quand on a des besoins. Il faut que ça soit à chaque jour. Je me suis souvent fait dire aussi, « Moi, je prie, mais ça marche pas. » Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. « Je prie, mais ça ne marche pas. » Il peut y avoir des raisons pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite à une prière. Ou est-ce que ça peut être quelqu'un qui prie pour une délivrance, ça se peut que Dieu attende, ça se peut que Dieu nous laisse des fois. Mais je l'entends souvent, je prie, mais ça ne marche pas. Puis c'est vrai que le vrai combat, le combat de notre chair est extrêmement difficile. Surtout ceux qui vivent avec des dépendances, qui luttent avec des dépendances, que ce soit l'abus de drogue, d'alcool, de médicaments, la pornographie. Donc, il y a des dépendances qui sont extrêmement difficiles à délaisser. Puis, il y a un combat, puis c'est vraiment difficile. Puis, ça peut même sembler au-delà de nos forces, quelque chose qu'une personne combat. Mais à chaque fois que quelqu'un me partage une lutte avec un certain, comme ça, un péché qui a de la misère, ben je me demande toujours combien de temps est-ce que tu passes dans la prière pour avoir la victoire sur ce combat-là. Puis des fois, je pose la question. Puis c'est pas pour juger, puis d'être légaliste, faut que tu pries plus. Mais non, mais il y a une vérité derrière ça. On veut la victoire, on veut être sur nos genoux, on veut combattre, on veut crier au Seigneur pour avoir la victoire. C'est pas juste avant de partir, bon, Seigneur, merci pour la bonne toast, puis bénis ma journée, puis aide-moi dans mes combats, amen. Puis tu t'en vas, puis ça c'est ta vie de prière. Bien, peut-être qu'il y en a beaucoup que c'est ça, mais je me pose toujours la question, combien de temps est-ce que tu te bats dans la prière? Puis honnêtement, j'ai jamais personne qui m'a répondu... Je prie tellement que j'ai des trous ou les genoux dans mes jeans. J'ai jamais entendu ça. Mais c'est une question importante. À quel point est-ce que on veut vraiment la victoire? C'est une question importante à se poser. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on veut la victoire, mais on n'est pas prêt à aller à guerre. On veut des victoires faciles. On veut des victoires instantanées. Puis oui, Dieu peut donner ce genre de victoire-là, mais j'ai l'impression que parfois Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'il attend nos supplications. Il attend de voir à quel prix on veut ce qu'on lui demande. Alors, la prière, je pense, c'est quelque chose qu'on doit mettre une priorité dans nos vies. Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses des faux raisonnements. Parce que nos faux raisonnements, là, si ça se bâtit, ça devient comme des grosses forteresses, puis c'est comme si on est en prisonnier en dedans de ça. Puissantes, pourquoi? Parce que c'est des âmes qui viennent de Dieu. Alors, on doit tout faire pour vaincre le péché. On doit être prêt à aller jusqu'à la mort pour vaincre le péché. Mais la victoire vient quand même juste de Dieu. Ça, il faut le rappeler. Quand même que je me bats nuit et jour, c'est quand même Dieu qui donne la victoire. C'est pas, ah, j'ai tellement prié, j'ai tellement bien fait ça, que Dieu, tu me dois la victoire. Non, oui, on est appelé à ça, mais la victoire vient de Dieu. Puis il y a un auteur qui dit, chaque chrétien devrait comprendre que la sanctification demande l'effort le plus ardu, mais qu'elle dépend néanmoins totalement de la puissance de Dieu. Ça, il faut se rappeler de ça. C'est des mystères, hein? C'est qui fait, lui ou moi, ou c'est quoi? Bien, c'est un mélange des deux, mais on doit donner, mettre, faire l'effort le plus ardu, mais au final, la puissance de Dieu, c'est lui qui donne la victoire. Ensuite, bon, comment vaincre les faux raisonnements? Par la douceur, la bonté de Christ, si on approche des gens avec... qui ont ces faux raisonnements-là. Deuxièmement, avec les armes spirituelles, la prière, la lecture, la méditation. Troisièmement, en amenant nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est quoi qui se passe dans nos pensées? On croit à quoi? Parce qu'on est bon pour se dire des affaires. On est bon pour s'inventer des mensonges. Puis encore cette semaine, moi, je suis avec quelqu'un, puis je jase, puis je discute, puis encore, je partageais des pensées que j'avais, puis on les a analysées ensemble, avec la parole. Puis, à force de les regarder puis de les analyser, à un moment donné, il me dit, « Ça, comment tu t'es senti? Ça, cette pensée, ça, c'est-tu vrai? » Je dis, « Non, c'est un mensonge. » Ensuite, le deuxième, « Ça, non, c'est un mensonge. » On est comme ça. On le sait, mais on laisse quand même les mensonges nous affecter. Raisonnement, nos pensées, il faut toujours les amener captif à l'obéissance de Christ. Amenez ça à la parole. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, on utilise les armes spirituelles pour renverser, en fait, ces forteresses-là, qui sont des faux raisonnements, qui sont des faux arguments, des fausses philosophies, des fausses croyances, des opinions qu'on pourrait avoir, tout ça qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Puis même si on devient chrétien, on peut traîner avec nous des faux raisonnements. Qu'on soit né d'une famille chrétienne, ou qu'on soit converti à 30, 40, 50 ans, on a tous un background, puis on va traîner avec nous des faux raisonnements, même quand on devient chrétien. Ça peut venir de notre éducation. Souvent, ça vient de notre éducation. Je veux dire, toute ma vie, mon père m'a dit ça, puis ça. Ça peut venir aussi de des vieilles blessures. Ça peut venir des amis avec qui je me tiens. Même des chrétiens. Ça peut venir de la corruption du monde, du péché qui est en nous. Je vous en nomme quelques-unes que j'ai vues à travers le temps. Je me rappelle de cette personne qui était incapable d'appeler Dieu Père. Elle n'était pas capable. Elle dit, moi, je ne peux pas appeler, parce que pour moi, Père, elle avait une image d'un Père, une image négative de comment elle avait été élevée. Puis là, je ne me souviens pas des détails, qu'est-ce qu'elle avait vécu exactement, mais pour elle, je ne peux pas appeler Dieu Père. Mais c'est un faux raisonnement, parce que Dieu, il est appelé notre Père. On est appelé à prier notre Père. Dieu le Père fait partie de la Trinité, mais c'est un faux raisonnement de dire, moi, je ne peux pas dire à Dieu Père, je ne peux pas l'appeler Papa. Alors, ma vie chrétienne, je la vis sans avoir cette figure d'un papa qui prend soin de moi. Alors, je vis ma vie chrétienne avec un faux raisonnement. Une autre personne qui, elle avait de la difficulté à dire, elle dit, moi, je suis pas capable de dire « je t'aime » à Jésus. Je dis, pourquoi tu es... Elle dit, je suis pas capable, parce que aimer Jésus, il nous dit qu'il faut l'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. Elle dit, je suis incapable d'aimer Jésus de même, donc je peux pas lui dire « je t'aime » parce que c'est pas vrai. Bien, elle avait raison. Quand on dit « je t'aime », on l'aime imparfaitement. D'accord? Personne aime de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Mais dis-lui quand même que tu l'aimes. Il sait que tu as un amour imparfait. Mais la personne est incapable. Je ne suis pas capable de dire au Seigneur « je t'aime ». Moi, je serais triste de ne pas pouvoir aller en prière et dire « Seigneur, je t'aime ». Mais je dis « comment ça lui dire ?» C'est un faux raisonnement de croire ça, que tu ne peux pas lui dire parce que c'est un... Voyez-vous? Un autre faux raisonnement que j'ai vu, c'est une personne qui luttait avec un péché, puis qu'il tombait toujours dedans. Puis je me souviens d'un autre chrétien qui dit, ben écoute, il dit, tu sais, il lutte, puis il tombe, mais il dit, quand l'arbre est poussé croche, là, on ne peut rien faire. Hein, j'ai entendu dire, ben non. C'est un faux raisonnement, ça aussi. Donc, le chrétien, il disait, on ne peut pas vraiment faire grand-chose parce que toute sa vie, il a été élevé de même, puis il était habitué de même, puis c'est comme ça qu'il est. Puis l'arbre, quand l'arbre est poussé croche, essaie de le remettre droite. Donc, ça aussi, c'est un faux raisonnement. Il est en train de dire que Dieu n'a pas la puissance de délivrer ou de changer, de transformer cette personne-là. C'est complètement faux. Donc, voyez-vous, ces genres de petits faux raisonnements-là, là, on pourrait les multiplier. On en a tous en passant. Je vous garantis que vous en avez aussi. Parce que si on n'avait aucun faux raisonnement, ça voudrait dire qu'on a compris la parole 100%, puis on a tout saisi, puis on n'a aucune erreur nulle part. Moi, je ne suis pas capable de dire ça. J'espère d'être le plus proche de ce que Dieu a révélé, puis d'avoir vraiment bien compris la révélation, mais je ne peux pas être 100% parfait, puis connaissance des Écritures partout. À quelque part, j'ai des angles morts, puis j'ai peut-être pas bien vu quelque chose. Donc, on a tous ces faux raisonnements-là. Et parfois, on va accepter ces faux raisonnements-là parce qu'on croit qu'ils font partie de notre personnalité. On croit que ça fait partie de notre identité tellement qu'ils sont là depuis longtemps. Je pense de telle manière, comme la madame, ou je me souviens pas si c'était une dame ou un monsieur, je me souviens juste de l'histoire, mais je peux pas appeler Dieu Père, il me semble que c'est une dame, je peux pas appeler Dieu Père, mais toute sa vie, c'était comme ancré en elle, ça faisait partie de son identité. Donc, parfois, on est convaincu qu'ils sont vrais, ces faux raisonnements-là. Puis, en lisant la parole, en parlant avec quelqu'un, ben, on se rend compte finalement c'est un mensonge. Mais parfois, on pense qu'ils sont vrais. Puis d'autres fois, on le sait que c'est un mensonge. Je le sais que c'est pas vrai. Je le sais que ça n'a pas rapport de penser de même, mais on les laisse quand même nous affecter. Puis c'est difficile de changer une façon de penser parce que c'est tellement ancré des fois en nous. Et il y en a qui vont encore plus loin, puis je ne pense pas que c'est nécessairement le cas, mais il y en a qui vont même jusqu'à tort des Écritures. On va ajuster les Écritures pour qu'ils fitent avec mon faux raisonnement, comme ça, ce n'est plus un faux raisonnement, c'est rendu correct. Puis même l'Écriture m'appuie. Vous savez, il y a tout ce groupe-là aujourd'hui de révisionnistes qui vont revoir les versets de l'Écriture, les passages de la Bible, pour les ajuster à la réalité de notre monde moderne, à ce qu'on voit dans la société aujourd'hui. Pourtant, c'est des passages, quand je regarde les passages qui vont twister, qui vont tordre, c'est des passages qui sont pour moi très clairs, mais ils vont réinterpréter, parce qu'ils veulent répondre à leur désir en dedans d'eux à se conformer au siècle présent. Je suis de même. Non, mais c'est un faux raisonnement, c'est pas la parole. Non, regarde, la parole, tu t'as mal compris, puis là, ils réinterprètent. Puis tu vois, c'est pas un faux raisonnement. Il y en a qui vont jusque-là, puis de plus en plus aujourd'hui. Quand on parle d'église libérale, là, où est-ce qu'on ne croit plus nécessairement au miracle de Jésus, puis on peut, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, vous avez sûrement entendu ces genres d'églises-là qui existent. Donc, au lieu de se battre comme des soldats de Christ, on accepte le mensonge, qu'on n'y peut rien, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Ça, je l'ai entendu de la bouche de croyants en passant. On ne peut rien faire, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Mais rappelez-vous d'Enoch, hein? Moi, je trouve ça beau, Enoch, qui a marché avec Dieu au milieu d'une génération perverse, corrompue. Il s'est tenu debout pour la vérité. On doit se tenir debout aussi pour la vérité. On ne combat pas des hommes en passant, hein? On combat des idées. On ne combat pas des soldats, mais des raisonnements qu'on entend à droite puis à gauche qui s'élèvent contre la pensée de Dieu, qui s'élèvent contre l'Évangile. Puis la bataille est difficile. Les forteresses, des fois, sont très, très hautes. Mais tout peut être détruit. On peut tout détruire, ces faux raisonnements, ces forteresses-là, si on combat avec les armes spirituelles. Et si on amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est pour ça l'importance de la prière. Aussitôt que j'ai une idée qui, je sais que c'est pas, non Seigneur, je te ramène ça à toi Seigneur. Je te ramène, une pensée qui vient cogner à la porte, je me souviens d'un homme de Dieu qui disait, moi quand il y a une pensée qui vient cogner à la porte, j'envoie toujours le Seigneur répondre. Puis, il faut s'habituer à ça. Le Seigneur va répondre. Puis chasse ça. Il faut faire la guerre, la bataille à ces pensées-là, à ces mauvaises pensées-là. Soumettre nos pensées, nos raisonnements, nos arguments, notre vision humaine, tout ce qui est contraire à la seigneurie de Christ, justement, mettre ça de côté, le soumettre justement à Christ. Revenir à la simplicité et l'obéissance de Jésus-Christ. Puis je trouve ça beau parce que c'est pour ça que je pense que Jésus... Il dit qu'on doit devenir comme des petits-enfants. Avez-vous déjà vu un petit-enfant s'élever avec sa prétention intellectuelle ou son raisonnement pour rabaisser l'Évangile? On ne voit pas des petits-enfants faire ça. C'est juste les personnes qui ont appris, puis qui ont été à l'école, puis qui ont, peu importe, je ne dis pas nécessairement juste des gens à l'école, mais des gens adultes, qui se sont fait une idée avec toutes sortes d'idées partout, puis des raisonnements qu'ils ont entendus à droite, à gauche, la philosophie qu'ils ont peut-être appris à l'école. C'est ces gens-là qui vont s'élever contre l'Évangile, mais pas un petit enfant. Mais on doit devenir comme des petits-enfants. Josué, il est déjà 25, vous vous rappelez de Josué, il a vaincu la muraille de Jéricho. Comment? Avec la sagesse humaine? Avec un plan de combat bien réfléchi? Non, il a obéi à la parole de Dieu. Ils ont fait le tour de la ville. Puis là, ils ont arrêté. Puis le lendemain, puis après ça, le lendemain. Mais c'est donc pas stupide, mais tu sais, dans un sens, ça n'a aucun sens, ce plan-là. Mais Dieu l'a demandé. C'est pas stupide. Dieu l'a demandé. Alors, ils font le tour, puis la dernière journée, bien, ils font le tour sept fois, puis ils sonnent la trompette, puis finalement, bien, c'est quelque chose. Obéissance à la parole de Dieu, c'est l'Évangile qui peut nous libérer de nos faux raisonnements. La parole de Dieu qui nous libère de l'incrédulité, de notre rébellion, pour qu'on devienne obéissant à Christ. Et je termine avec le dernier point. Comment vaincre les faux raisonnements par la douceur, la bonté de Christ, avec les armes spirituelles, donc la parole, la méditation, la prière, mais aussi en amenant nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Toutes nos pensées, regardez, puis l'obéissance de Christ, c'est l'obéissance de sa parole. Hein? La parole a été faite chair. C'est quoi Christ? C'est la parole de Dieu. Donc, on doit mettre tout ça en conformité à ce que la parole de Dieu dit. Puis quand on est dans le champ, bien, on doit jeter ça de côté parce que je veux me conformer à Christ, à sa parole. Et finalement, en corrigeant l'erreur, parce que cet aspect-là aussi, hein, il dit au verset 6, « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Autrement dit, quand l'Église va montrer à Paul sa loyauté, qu'ils ont mis de côté ça, puis qu'ils reviennent, ils se rattachent à Paul, bien, Paul va punir les autres qui continuent peut-être à s'opposer à lui, à désobéir à l'Évangile. Donc, il est prêt, Paul, à corriger. Donc, c'est pas juste une petite guenille dans le côté. Là. Il était ferme avec ce qu'il croyait. Donc, prêcher l'Évangile, c'est pas juste de proclamer la vérité, c'est aussi de dénoncer l'erreur. Sauf que c'est de plus en plus dur. Parce qu'aujourd'hui, quand on dénonce l'erreur, ça devient dangereux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lois. Puis si on dit telle ou telle chose, on peut être coupable d'une loi humaine, puis on peut faire de la prison. Alors, c'est de plus en plus difficile, mais il faut le faire. Il faut être rusé quand même, mais faire attention, pas juste aller sur la place publique puis crier toutes sortes d'affaires, puis se mettre en dedans. Mais il faut quand même dénoncer l'erreur. Et c'est ce que dans les églises, les anciens, ils tentent de faire. Puis on tente de le faire dans notre église, quand on le voit. Puis il y a des gens qui voient ça comme... C'est pas un power trip de la part des anciens. Peut-être qu'il y a des églises qui vivent ce genre, puis ça, c'est un péché, ça, de quelqu'un qui utilise son autorité de pouvoir pour imposer. Non. Mais des anciens qui veulent corriger l'erreur, Bible en main, c'est pas l'idée de faire un power trip. C'est pas l'idée d'on veut s'immiscer dans la vie des gens puis des membres. C'est qu'on veut corriger l'erreur parce qu'on est convaincu que telle chose, c'est pas en conformité à la parole. Donc, il faut le faire dans l'Église. Puis ça, encore une fois, la discipline dans l'Église, là, c'est pas vraiment populaire. Je parlais avec quelqu'un, là, je ne me souviens pas quand, là, peut-être un an, puis il dit, je lui avais demandé, pratiquez-vous la discipline dans votre Église? Ah, il dit, oui, on y croit, mais on n'a pas l'occasion de le faire. Fait, autrement dit, ils ne le font pas, ils ne le font jamais, parce que ça dérange. Parce que les gens quittent après, puis parce que telle chose, puis telle chose... Je comprends que ça peut être mal fait, par exemple, aussi, la discipline. Ça, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir, mais il faut faire cette discipline-là, puis veiller sur la vérité. Et je termine avec un texte. Désolé, il était 28. Je suis correct, hein? Je suis encore correct? OK. Mais parce que ça dit que la victoire est possible si on amène toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Puis je vous fais tourner dans Matthieu 26, que j'ai trouvé intéressant. C'est quelque chose que mon bon ami Daniel Moreau m'a fait remarquer la dernière fois que je l'ai vu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. On va lire ensemble cinq versets, Matthieu 26, 21 à 25. Et regardez, il y a une petite différence qu'on peut remarquer. Vous n'allez sûrement pas la voir parce que il y a tellement de mots, là, mais vous allez la voir après quand je vais vous dire c'est quoi. Donc, on lit ensemble Matthieu 26, 21 à 25. « Pendant qu'il mangeait... » Donc, c'est les disciples, tu sais, avec le Seigneur. Il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés. Chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. » Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Les premiers disciples, quand ils ont fait le tour, ils ont dit, « Est-ce moi, Seigneur? » Mais quand il arrive à Judas, « Est-ce moi, Rabbi? » Puis, je vous suggère, moi, je pense que quand l'auteur écrit, puis qu'il y a des différences, puis je pense qu'il y a des raisons, mais ce que je dis là, c'est quelque chose d'intéressant, là. Mais, tu sais, c'est exactement ça que Matthieu a voulu souligner. Moi, je pense que peut-être, mais vous en jugerez, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les mots « rabbi » versus « seigneur », c'est pas la même relation. OK? Un rabbi, c'est un maître. C'est un enseignant. C'est une relation qu'on a avec lui un peu comme un professeur. C'est une relation plus intellectuelle. Le professeur m'enseigne. Je vais aller le questionner après. Il va m'expliquer les réponses. Donc, on écoute, on apprend, on discute. Et Judas reconnaît l'autorité pédagogique de Jésus. Puis on sait que Judas n'a jamais reconnu le Seigneur, parce qu'on sait que c'est le fils de la perdition. Mais Judas, il l'appelle Rabbi. Donc, c'est plus un enseignant. Puis le mot Seigneur, c'est kurios, c'est un titre d'autorité. C'est un mot utilisé dans la Septante. Quand on a traduit l'Ancien Testament en grec, qu'on appelle la Septante, quand on traduisait Yahweh, bien, on mettait kurios, Seigneur. Donc, c'est vraiment, ça l'implique vraiment, parce que c'est Dieu, Yahweh, Seigneur. Ça l'implique une soumission, ça l'implique une obéissance, ça l'implique une loyauté. Donc, dire Seigneur, c'est pas juste de croire en Jésus, c'est de se placer sous son autorité, sous son règne. Il est mon Seigneur. Puis même on le voit, Seigneur, Jésus va dire, « Hey, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, pourquoi? Vous ne faites pas ce que je dis. » Puis je trouve ça quand même intéressant que Judas utilise le mot « Rabbi ». Parce que Judas ne s'est jamais placé sous l'autorité du Seigneur Jésus. Il n'a jamais été sauvé. Quand on se place sous le règne de Christ, il va nous donner la capacité d'obéir. Parce qu'on est sous le règne de Christ, on est nouveau, parce qu'on a mis notre foi en lui, on reçoit le Saint-Esprit, on a maintenant la capacité d'obéir. Et tout ce qu'on a vu ce matin est seulement possible dans la mesure où on reconnaît que Jésus est Seigneur de notre vie. Et si c'est juste un rabbi, une personne qui dit des belles choses, une personne qui dit des choses révolutionnaires, bien, on n'est pas né de nouveau, on n'est pas son enfant, puis on n'est pas sous sa seigneurie. Puis on a bien beau vivre la vie chrétienne avec un rabbi, mais on ne va jamais vivre dans la victoire, puis on va toujours être frustré et frustré, parce qu'on doit premièrement le reconnaître comme Seigneur Sauveur. Alors, je trouvais ça intéressant dans Matthieu de faire la distinction avec les onze, puis le Judas qui l'appelle seulement rabbi. Je ne sais pas si c'est vraiment pour démontrer cette idée-là, mais c'est quand même un fait qu'il n'a jamais reconnu plus qu'un rabbi. C'est jamais été son seigneur. Et les autres, oui. Puis les autres ont fait de grandes choses. Puis Judas, il est allé se suicider. Alors, je vous laisse avec ça. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Puis oui, on t'appelle Seigneur. Et on veut être conséquent avec nos mots. Puisque tu es notre Seigneur, on veut obéir à ta parole. On veut être sous ta seigneurie, sous tes ordres. Tu es vraiment notre maître, notre Seigneur au-dessus de tout, sur nos vies. Et aide-nous, Père, à justement chasser toutes ces fausses idées qui nous viennent, ces mensonges. Seigneur, aide-nous de voir la distinction avec la vérité de ta parole, puis des fois des nuances, des choses qu'on se fait dire qui sont peut-être bien proches, mais qui ne sont pas alignées avec ta parole, qu'on puisse avoir le discernement, que le Saint-Esprit nous donne la sagesse, nous guide, et qu'on puisse avoir le réflexe de toujours envoyer Jésus répondre à la porte quand il y a des mensonges ou des faux raisonnements qui viennent nous visiter. Puis bénis l'Assemblée ici, bénis leur témoignage. Et que tu puisses, Seigneur, aussi toucher les cœurs autour des gens qui vivent autour ici et amener d'autres personnes à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen.